business avec Ray Lalonde.
Bonsoir Ray, comment ça va?
Salut Dan, ça va bien?
Ça va très bien, merci. On a plusieurs sujets à élaborer ensemble, toi et moi, ce soir. Mais je commencerai par un sujet qui n'est pas sur notre menu, si tu me permets. Et tu vas voir que ce ne sera pas une question piège. Mais je veux faire appel à ton expertise de gars, de médias, de gars qui en a vu d'autres, de gars qui a travaillé pour la NBA. Puis j'ai une question qui me passe par la tête depuis quelques heures. Et j'avais hâte de te parler pour te la poser. Et ça concerne le point de presse d'Eli Manning aujourd'hui à New York. Il a annoncé sa retraite. Très belle carrière, 16 saisons, 2 Super Bowls. Et Ray, avant-hier, mercredi, on a appris qu'Eli Manning allait faire un point de presse ce matin et qu'il allait rencontrer les médias pour annoncer sa retraite. Est-ce que toi et moi, on va vivre assez vieux pour vivre un point de presse où on va apprendre une nouvelle? Ça n'aura pas sorti 24, 48 ou 72 heures avant.
Écoute, c'est difficile à imaginer, étant donné l'ampleur des médias sociaux, la capacité de chaque individu en question de contrôler et gérer son propre message, la course folle vers ce qu'on appelle le scoop, entre les organisations médiatiques, les différents réseaux, et aussi les clubs de sport qui se battent eux-mêmes pour pas se faire scooper, pour être sûr qu'ils puissent bien diffuser ce qu'ils veulent diffuser avant que quelqu'un le fasse pour eux. Honnêtement, c'est une question très pertinente dans notre société, à savoir pourquoi on fait des points de presse, à part d'avoir l'individu ou le groupe d'individus devant nous, parce que finalement, on peut pas annoncer. Tu sais, pense au dossier de l'annonce de la présidence des Alouettes il y a un jour.
Ouais.
On le savait comme 3 jours avant. C'est difficile de concocter quelque chose qui est gardé parce que à tous les niveaux, il y a toujours une fuite. Il y a toujours une partie de l'information, une photo. Il y a toujours, tu sais, que ce soit des uniformes nouveaux, que ce soit, écoute, j'ai vu Bernard Drinville tweeter à Montréal hier le dossier de la campagne éventuelle de Jean Charest.
Oui, exact, la vidéo.
Puis finalement, il n'y a pas eu de campagne. C'est alors, ça. Tu comprends, même des choses qui ne sont pas prêtes à être diffusées ou à être sorties publiquement ou que quelqu'un peut même pas changer de vie, se prendre au jeu. Alors, ta question est pertinente. Je pense qu'il y a toujours façon de combattre. Mais tu sais, même les employés, quand on leur demande de garder des choses discrètement, il y a quelqu'un qui le sort quand même. On peut même pas faire totalement confiance aux individus autour de nous pour garder un secret, parce que tout le monde a en sa possession la capacité de diffuser, et dans certains cas, avec un grand nombre d'abonnés. Et c'est le défi des temps modernes de 2020.
OK. Cette semaine, sur tes différentes plateformes et lors de tes interventions un peu partout, tu as été sévère à l'endroit du Canadien. Tu dis que le plan actuel ne fonctionne pas.
Ouais, ben, tu sais, moi, j'essaie toujours de regarder basé sur deux grands principes dans toutes mes analyses. Les faits et le concret.
OK.
Tu sais, j'ai une opinion, Dan, mais la tienne est aussi bonne que la mienne. Puis tous nos auditeurs ont des opinions, sont très valables. Puis c'est l'argumentaire qui compte. Puis l'argumentaire, ça vient de 34 ans d'expérience dans mon cas, dans l'industrie, dans plein de sports, dans le monde entier. Et aussi sur ce que j'observe, puis ce que je constate. Dans le cas des Canadiens, c'est une organisation que je connais assez bien. Ironiquement, là, depuis mardi, quand j'ai parlé de ça avec puisqu'il faut se lever avec Paul Arcand, ben hier, les Canadiens ont procédé à un paquet de coupures de personnel. Et je t'avoue que quand j'ai appris ça via RDS puis via d'autres membres de la presse à Montréal, puis j'ai parlé à des individus, ce que j'ai constaté, c'est que ils ont bougé dans des endroits où j'aurais jamais cru. C'est-à-dire des gens qui sont des gens de soutien, de support, avec des postes cléricaux, dans quelques cas. Puis je trouve que c'est triste un peu que les Canadiens procédé dans une direction comme ça. Moi, quand je parlais avec Paul Arcand, le but était de souligner que je pense qu'il y a fondamentalement, après 11 ans à peu près, là, depuis que la direction de M. Molson a pris l'équipe, je pense qu'il y a fondamentalement des questions institutionnelle systématique à se poser, à savoir si la bonne culture de succès et d'excellence existe au Centre Bell. Alors quand lui me demande est-ce que c'est le coach le GM, je veux pas trop commenter sur les coachs et les GM parce qu'il y a assez de journalistes qui commentent là-dessus. Puis honnêtement, un coach, c'est une position très difficile. J'ai commencé ma carrière comme coach. Je serais pas le gars qui va commencer à blâmer Claude Julien. Puis le directeur général a fait des bonnes transactions, il en a fait des mauvaises, il a raté des choix, puis il en a fait des bons, puis ça, c'est la nature de la bête. Mais je pense que le problème des Canadiens, c'est au-delà de ça, là, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une culture d'entreprise qui n'est pas à la hauteur des attentes des gens. Puis peut-être que les gens aussi, comme fans de hockey au Québec, Dan, peut-être qu'on devrait arrêter de penser que les Canadiens visent la Coupe Stanley. C'est certainement pas le cas.
Mais le public est fidèle quand même. Est-ce que le public devrait... c'est très difficile de bouder une organisation. Je veux pas appeler au boycott du Canadien ce soir en ondes, mais est-ce que le public, Ray, devrait être plus exigeant?
Tu sais, Dan, c'est ça la question, honnêtement. Parce que tant qu'il y a des gens qui achètent des biens en ligne et qui payent des prix absolument astronomiques, ben là, ça veut dire que les Canadiens n'ont pas vraiment raison de se soucier là, de l'attrait du public. Tu sais, le sport, c'est une business de gagner des matchs, avant tout, et de faire de l'argent également. Alors, un va pas sans l'autre. Cependant, tu peux faire de l'argent et perdre tes matchs, puis quand même avoir une opération solide. Si tu gagnes tous tes matchs, puis les gradins sont vides, tu vas pas durer longtemps. Fait que, donc, je suis obligé de constater que c'est une business avant tout. Tout le monde le sait, puis on l'accepte. Cependant, les partisans, eux, là, la business, ils n'en ont pas grand-chose à cirer, si tu me permets l'expression. Eux autres veulent des victoires. Ils veulent des résultats concrets. Ils veulent des joueurs étoiles. Ils veulent avoir de l'espoir. Et surtout, Dan, ils veulent avoir de la valeur. Alors, tant qu'il y a de la valeur, les gens vont dire, ben écoute, je te donne mon temps puis mon argent, puis je te donne mon investissement émotif. En retour, promets-moi quelque chose. C'est que tu vas faire tout ce qui est possible dans la mesure que tu peux pour gagner. Mais je m'attends pas à un championnat à chaque année non plus. Je pense que ça, c'est raisonnable. Mais l'intérêt des spectateurs, c'est qu'à un moment donné, de nos jours, surtout Dan, les gens changent rapidement d'alternative. Ils changent de sujet de consommation. Alors, finalement, ça a une certaine forme d'érosion au fil de plusieurs années. On est dans l'érosion, là, parce que ça va faire 4 années en 5 qu'ils font pas les séries. Là, on parle même pas d'espoir, là. On n'arrive même pas à se qualifier pour les séries.
Non.
Se qualifier pour les séries, là, c'est au moins un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin d'un championnat. Puis, je serais pas le premier qui va dire que l'an dernier, les Blues sont partis d'être derniers puis ont remporté le titre. Ça se fait. Et les Raptors ont ajouté un joueur et ont remporté le titre NBA. Ça se fait. Il y a toutes sortes de façons de demeurer compétitif. Mais à la fin, c'est une décision individuelle des partisans, des fans. Il faut aussi savoir qu'il y a une coupure démographique entre un partisan des années 70-80 qui a au-dessus de 37 ans, puis un partisan de moins de 37 ans qui n'a jamais vu vraiment de son souvenir là, une Coupe Stanley. Donc les attentes sont forcément moindres. C'est correct ça aussi. Fait que moi, je suis pas le juge. Je vais juste te donner un point de vue sur lequel on peut se pencher qui est très objectif, factuel.
OK. Parlons-en des Blues. Tu l'as effleuré dans ton analyse, mais les Blues vont recevoir le week-end des étoiles. Ça débute ce soir. Concours d'habileté également. Compétition féminine. L'équipe du Canada contre l'équipe des États-Unis. 10 contre 10, mais on va jouer 3 contre 3 sur la patinoire. Mais les Blues, tantôt, tu disais, ils étaient derniers puis ils ont gagné la coupe, mais c'est une exception. Je pense pas que... Puis c'était une équipe qui avait beaucoup, beaucoup de talent, ce que le Canadien a pas. Je pense pas qu'il faut prendre en exemple ce qui s'est passé l'année dernière. Les équipes, je trouve, font erreur de toujours ramener l'histoire des Blues de l'an passé. J'ai l'impression que dans les 30 prochaines années, on verra pas ça, une équipe qui est au dernier rang au début janvier et qui gagne la Coupe par la suite. Week-end des étoiles!
Ouais, mais...
Oui, vas-y, Ray. Oui,
mais là-dessus, Dan, si tu me permets une intervention, c'est que c'est sûr que ça arrive rarement, là. Mais c'est déjà arrivé, donc c'est possible.
Oui.
C'est tout ce que je veux dire.
C'est vrai, c'est vrai. Parlons du match des étoiles. Est-ce que le match des étoiles, les joueurs... souvent disent « Ouais, je suis pas sûr, je suis blessé, j'irai pas. » Il a fallu instaurer dans les dernières années un match de punition. Tu peux le prendre avant ou après, mais tu es suspendu à un match si tu refuses d'aller au match des étoiles. On vérifiera pas si tu es blessé pour vrai, on fait juste te dire « Tu manques un match. » Je sais pas s'il faut se rendre à faire manquer 2, 3, 4, 5 matchs à ces joueurs-là pour les envoyer au match des étoiles. Les amateurs boudent le match parce que c'est pas intéressant et il n'y a pas de mise en échec. Finalement, on fait un match des étoiles pour qui exactement, Ray?
Tu sais, ce que j'aime de te parler le vendredi, Dan, c'est qu'à la fin de la semaine, là, j'ai eu le temps de réfléchir à ça 50 fois, d'en parler 2-3 fois, de me faire une tête à plusieurs endroits et de moi-même d'avoir un peu plus de contexte, perspective. Moi, je suis très positif par rapport à des événements et des occasions uniques dans le sport. Je pense que ce sont des événements, que ce soit des anniversaires, que ce soit des soirées spéciales, que ce soit des hommages à des joueurs, des anciens, un chandail retiré, un anniversaire à une équipe, peu importe. Moi, je suis en faveur de ça parce que c'en est ça de la valeur, Dan, justement, pour que les gens disent « Ah, ben, il faut pas rater ce soir-là, regarde ce qu'on fait. Regarde, l'équipe se présente avec un uniforme différent. Regarde, ce soir, on rend hommage à un ancien joueur. Il y a un invité spécial, même une personne qui vient chanter l'hymne national spécial. » C'est toutes des occasions pour ajouter de la valeur à un événement sportif dans le domaine du sport et spectacle. Donc, un match d'étoiles,
oui.
Que ce soit la NBA qui est quasiment en parallèle, que ce soit le Pro Bowl aussi qui est en fin de semaine, que ce soit le match d'étoiles en juillet du baseball majeur, à la fin, il y a une raison de croire que c'est très positif, particulièrement pour les jeunes qui veulent voir leur héros, et dans ce cas-ci, leur héros du hockey. Ça, c'est super positif.
Okay.
Bon, comment on fait pour arriver à ce que les meilleurs soient présents? Dans une saison difficile physiquement, où c'est dur de soutenir la cadence, pendant 82 matchs. Je te rappelle que dans la NBA aussi, il y a 82 matchs et je dénote une toute autre appréciation des joueurs de la NBA vis-à-vis une apparition au match étoile comparée au hockey. J'ai observé sur YouTube hier la réaction de Pascal Siakam des Raptors, celle de son entraîneur Nick Nurse et son frère lorsque Pascal Siakam, qui était à Québec au mois de septembre dernier, avec lequel j'ai pu m'entretenir en français, puis quand lui a appris qu'il était un joueur partant parmi les 5 joueurs de l'Est, c'était un moment historique de sa vie. C'est toute une année là entre un championnat l'an dernier puis un match débutant, là, ouais. Débutant pour un match étoile. Ça, là, pour moi, là, il y a quelque chose là, qui m'indique qu'il y a du prestige à être associé à ça, à être sélectionné et à se frotter les épaules contre les plus grands. Bon, alors comment on fait pour créer ça dans le hockey? Ben, faudrait d'abord qu'on ait des, mettons, des sentences un peu plus sévères, tu l'as dit, là. Un match, ça change rien. 5 matchs, par exemple, là, l'équipe va commencer à y penser, puis le joueur aussi. Mais l'autre chose que ça prend, Dan, surtout, meilleure collaboration entre l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et la Ligue. À savoir que l'Association des joueurs et la Ligue doivent travailler ensemble, Dan. Puis là, tu vas me dire que Don Ophir et Gary Bettman ont une relation cordiale correcte. Ben oui, je suis pas placé pour commenter cette relation-là. Ce que je peux te dire, c'est que quand les joueurs voulaient aller aux Jeux olympiques à Pyeongchang, oui. Gary Bettman a dit non.
Oui.
Puis là, soudainement, Gary Bettman a besoin d'eux au match étoile, puis il y en a 11 qui sont désistés.
Exact.
Alors, je suis pas en train de dire là qu'ils font exprès. Ce que
non,
je veux
non.
dire, c'est
non,
que...
Non,
non mais certainement, les deux ne collaborent pas pour la croissance du hockey au niveau mondial. Vrai? Parce que si c'était le cas, on travaillerait tous dans le même sens pour donner aux consommateurs ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les meilleurs joueurs lors du match étoile.
OK. Alors, Laurent Duvernay-Tardif va être au Super Bowl. C'est un Québécois, c'est le fun. C'est un Québécois qui performe dans un sport très américain. Est-ce que je peux tracer un parallèle en termes de business, parce que c'est ta spécialité, est-ce que je peux tracer un parallèle avec Bianca Andreescu qui, l'année dernière, dans un sport individuel, je veux le préciser, je sais que c'est pas un sport d'équipe, Bianca Andreescu qui était la Canadienne, qui a gagné le US Open et qui a performé dans un sport qui est pas nécessairement, qui est de plus en plus, mais qui est pas encore notre sport au Canada.
Ben oui et non, dans le sens que pour Laurent Duvernay-Tardif, tu l'as dit, joueur de ligne offensive, garde à droite dans une équipe de football composée de 53 joueurs dans la NFL, c'est une toute autre particularité que celle d'être une tenniswoman, dans la WTA.
Ouais.
Une chose qui est claire, par exemple, un joueur de l'Université McGill, que ce soit McGill, que ce soit Anthony Auclair avec le Rouge et Or autrefois, que ce soit Louis-Philippe Ladouceur ou Jean-Philippe Darche, qui ont atteint la NFL, tout ça pour dire que sortir du Canada et atteindre la NFL, là, c'est quelque chose
ouais.
de spectaculaire comme accomplissement. Alors, Laurent Duvernay-Tardif, 28-29 ans, sort du Mont-Saint-Hilaire, joue à McGill, étudie en médecine, il a gradué en médecine, c'est comme du jamais vu, là. Tu sais, comme Jérémy Rainville me le disait cette semaine, le gars est presque parfait.
Ouais.
Comment faire pour faire mieux que ça? Alors, c'est un accomplissement là qui est vraiment unique. Il inspire les jeunes. Il donne l'exemple du sérieux, de la détermination. Tu vois son enthousiasme qui est délirant. C'est un accomplissement magnifique. Je suis content pour lui. Mais gagner le US Open, homme ou femme, dans un sport que tu as des millions, pas des milliers, mais des millions de joueurs et joueuses sur l'ensemble de la planète qui sont classés au moins de 1 à 600, là, peut-être plus. Puis elle a atteint le niveau de top 10, top 5 et gagne le US Open avec la compétition. Ça, c'est honnêtement, c'est quasi miraculeux, tenant compte de l'adversité. Alors, c'est pour ça qu'on oublie, quand je vois aller Nadal, Djokovic, Federer, encore et encore et encore, que c'est pas là pris pour acquis que ces gars-là là, sont les meilleurs de l'histoire. Parce qu'on a juste à regarder ce que Bianca a accompli. Puis Bianca aussi a l'aspect commercial. Elle en profitera individuellement beaucoup plus que quelqu'un comme Laurent, qui lui est un joueur de ligne offensive effacé avec les Chiefs de Kansas City. C'est sûr que ça va monter d'une coche, Dan, si les Chiefs remportent le Super Bowl.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Je comprends que Rolex a donné une commandite à Bianca. Probablement qu'ils n'en donneront pas une à Laurent. Par contre, comme tu l'as si bien expliqué, Laurent inspire les jeunes. J'imagine qu'au Québec, ou peut-être même à la grandeur du Canada, on va faire la file pour vouloir s'associer au niveau marketing avec Laurent Duvernay-Tardy.
Oui, mais tu sais, encore une fois, là, je lui souhaite que du bien. Regarde, j'ai gradué de McGill au football, moi aussi. Là, je peux pas. Je suis époustouflé à regarder Laurent Duvernay-Tardy réussir dans sa vie. Mais c'est un joueur de ligne offensive. L'autre, c'est une petite joueuse de tennis qui a gagné le US Open sur une plateforme. Et elle poursuit sur la WTA, qui est un circuit mondial. La NFL est d'abord et avant tout une ligue américaine, la plus grosse des ligues américaines sur le continent nord-américain. La NFL a un rayonnement dans le monde, mais surtout à cause du Super Bowl, pas pour la saison régulière.
Ouais.
Laurent Duvernay-Tardif est un joueur loin derrière en termes de rayonnement. Patrick Mahomes, Tyreek Hill, et ainsi de suite. C'est pas évident pour lui. Là. Mais cependant, j'y enlève rien. Là. Ce que je veux dire, c'est que il y a des marques qui vont s'associer à lui.
Ouais.
On l'espère qu'il y a des entreprises québécoises qui vont se rallier derrière lui. Mais il y a beaucoup d'Olympiens canadiens, québécois, qui ont gagné des médailles olympiques, hommes ou femmes, qui se cherchent encore et pourtant, ils ont atteint le sommet de leur sport, numéro un, sur un podium olympique et ont eu de la difficulté à monnayer ce succès sportif-là. C'est pas si simple que ça.
OK. En terminant, je veux que tu me racontes, cette semaine, tu es allé à New York pour rencontrer des gens qui faisaient un hommage à M. Stern, l'ancien commissaire de la NBA qui est malheureusement décédé au cours des dernières semaines. Tu l'as très bien connu, tu as travaillé pour la NBA. Je veux que tu me parles de cet homme-là parce que je suis pas certain que nos auditeurs le connaissent si bien.
Alors, David Stern a été le commissaire de la NBA de 1984, l'année de l'arrivée de Michael Jordan dans la NBA jusqu'en 2014, soit 30 ans. Il était un avocat externe à la NBA et interne à la NBA avant d'être le commissaire. Moi, j'ai eu le privilège de travailler pour la NBA pendant 8 ans, à New York et en Europe. À chacun des voyages de David Stern en Europe, j'étais présent avec lui. Donc, le privilège pour moi de l'avoir croisé dans ma vie et d'avoir été sur un chemin parallèle à un tout autre niveau inférieur, bien sûr, mais en toute humilité, l'occasion de collaborer, de l'aider, de partir en voyage, en déplacement, annoncer la bonne nouvelle de la NBA sur la planète entière. Ça, honnêtement, inspiré à jamais mon parcours professionnel et personnel, ma passion pour le sport, mes connaissances, qui sont encore à la cheville de David Stern, bien sûr, mais ce que j'ai vu à New York cette semaine, au Radio City Music Hall, dans une salle de 5 900 places, c'était pas des funérailles. C'était un mémorial pour célébrer la vie de David Stern. Et les 5 900 personnes qui étaient là, qui venaient de Chine, comme Yao Ming, qui venaient d'Australie, mes anciens collègues d'Europe, sont partis de Singapour, Paris, Madrid et du Kansas. Mais la planète entière avait délégué des représentants, de Bill Russell, 11 fois champion NBA, à Michael Jordan, à Magic Johnson, pour rendre hommage à David Stern. Il n'y a personne dans les 50 dernières années, tout sport confondu sur la planète, qui a influencé l'avenir et le changement dans le sport mondial, autant marketing que gestion, mais surtout comme responsabilité sociale. David Stern était un gars qui a affecté le changement et les 5900 personnes, Dan, c'était littéralement le leg de David Stern. Parce que le chapitre est fermé, le livre se poursuit. Et ces gens-là, je m'inclus dans ces gens-là, là, sont partis à poursuivre la mission de David Stern. Et c'est littéralement ce que c'est, honnêtement. Parce que quand Magic Johnson, un gaillard de 6 pieds 9, une vedette quasi milliardaire, qui n'a rien envie à personne, se met devant un podium pour expliquer aux gens comment David Stern a changé sa vie, a sauvé sa vie à cause de sa maladie, et qui est en larmes en avant pour exprimer sa tristesse de voir partir David Stern, mais aussi sa reconnaissance, c'est quand même assez symbolique. Mais c'était ça, là. Alors, mardi, là, c'était la conclusion d'une vie d'un homme qui a marqué le sport comme personne d'autre dans l'histoire du sport.
Fort intéressant et touchant. Gros merci, Ray, d'avoir partagé ça avec nous. Bon week-end à toi.
Salut, Dan. À vendredi prochain. Merci.
Salut bien, sans faute. Ray Lalonde, expert sport et business pour le réseau Cogeco. Et vous le voyez également à RDS. On a la chance et le bonheur, le privilège de lui parler chaque semaine dans l'avant-match.